Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié en 1967 sous le titre Pragmatics of Human Communication, une logique de la communication est un essai majeur de Paul Watzlawick, Janet Helmick-Beavin et Dondi Jackson, figure associée au Mental Research Institute de Palo Alto. L'ouvrage ne traite pas la communication comme un simple transfert d'informations entre deux individus. Il l'étudie comme un système de conduite, de relations et de règles, où chaque réponse modifie la situation commune. Sa visée est à la fois théorique et clinique, dégagée des principes généraux de la communication humaine. Puis montrer comment certaines configurations relationnelles contribuent aux conflits et aux troubles psychologiques. Les auteurs mobilisent la cybernétique, la logique et les travaux de Gregory Bateson, afin de comprendre les interactions familiales, les paradoxes et les tentatives de changement. Le livre est particulièrement connu pour ses axiomes de la communication et son analyse de la double contrainte. Exigeant mais structuré, il demeure une référence pour la psychologie, la thérapie familiale et l'étude des relations interpersonnelles. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, les axiomes montrent que toute conduite prend place dans une relation. Le point de départ du livre est radical, on ne peut pas ne pas communiquer. Même le silence, le retrait, l'immobilité ou le refus de répondre sont interprétés par autrui et produisent donc un effet relationnel. Cette idée oblige à déplacer l'attention du contenu verbal vers la situation d'échange entière. Les auteurs distinguent notamment le contenu d'un message et la relation qu'il définit. Une même phrase peut informer, demander, ordonner, plaisanter ou humilier selon le lien entre les interlocuteurs, le ton, le contexte et les réponses antérieures. La communication comporte ainsi une dimension de métacommunication, les personnes indiquent, explicitement ou non, comment leurs messages doivent être compris. L'ouvrage insiste également sur la ponctuation des séquences dans un conflit. Chacun tente à considérer sa propre réaction comme la conséquence logique du comportement de l'autre, tout en décrivant le comportement adverse comme la cause initiale. Ce mécanisme transforme une interaction circulaire en récit accusateur. Les axiomes ne sont pas des recettes de conversation. Ils constituent plutôt une grille pour repérer les règles implicites qui organisent une relation et pour comprendre pourquoi une discussion apparemment simple peut rester bloquée. Deuxièmement, la différence entre langage numérique et langage analogique éclaire les malentendus. Les auteurs proposent de distinguer deux modes complémentaires de communication. Le mode numérique renvoie principalement aux signes verbaux dont la relation avec ce qu'ils désignent est conventionnelle. Il permet une formulation précise, utile pour raisonner, décrire et transmettre des informations complexes. Le mode analogique recouvre notamment la posture, les gestes, le regard, la voix, la distance physique et le rythme de l'échange. Il exprime avec force la qualité du lien, mais il est moins univoque et plus difficile à traduire en termes explicites. Cette distinction évite une erreur fréquente croire que les mots suffisent à fixer le sens. Une personne peut prononcer une formule conciliante tout en manifestant, par son attitude ou son intonation, de la défiance. Le destinataire ne reçoit alors pas deux informations indépendantes, mais un message composite dont les niveaux peuvent entrer en tension. Les difficultés apparaissent aussi lorsqu'un interlocuteur demande une clarification verbale d'un comportement relationnel qui demeure flou, ou lorsqu'il traite une déclaration explicite comme si les indices non-verbaux étaient sans importance. L'analyse ne réduit pas le non-verbal à un code universel. Elle montre plutôt que les partenaires doivent sans cesse interpréter et traduire entre ces deux registres, avec une marge permanente de malentendus. Troisièmement, les paradoxes et la double contrainte décrivent des impasses relationnelles durables. Une contribution décisive du livre concerne les paradoxes de la communication. Les auteurs s'appuient sur la logique pour distinguer les contradictions ordinaires des injonctions qui empêchent toute réponse satisfaisante. Dans une double contrainte, une personne reçoit des messages incompatibles à des niveaux différents de la relation, sans pouvoir commenter librement cette incompatibilité ni se soustraire aisément à la situation. Par exemple, une demande apparente de spontanéité devient paradoxale si elle impose en réalité de démontrer cette spontanéité. Obéir volontairement à un tel ordre revient déjà à ne plus satisfaire ce qui est demandé. L'intérêt de cette analyse est de ne pas chercher une cause psychologique isolée chez un individu. Elle décrit une structure interactionnelle dans laquelle les solutions habituelles aggravent le problème. Répondre, ne pas répondre, contester ou chercher à clarifier peuvent tous être réinterprétés comme une faute. Les auteurs relient ce type de piège à certaines formes de souffrance et de désorganisation relationnelle, tout en évitant de faire du paradoxe une explication unique de toute psychopathologie, pour l'observateur ou le thérapeute. L'enjeu est d'identifier le niveau où se situe l'injonction contradictoire et de rouvrir la possibilité de métacommuniquer sur la règle du jeu elle-même. Quatrièmement, les relations symétriques et complémentaires peuvent se rigidifier en conflit. l'ouvrage distingue deux grandes formes de relations. Dans une relation symétrique, les partenaires tendent à se situer sur un plan d'égalité et à répondre sur le même registre affirmation contre affirmation, rivalité contre rivalité, compétence contre compétence. Dans une relation complémentaire, leurs positions sont différentes mais articulées, comme dans certains rapports d'aide, de soins, de direction ou d'apprentissage. La différence n'est pas en elle-même pathologique. Une complémentarité peut être fonctionnelle lorsque les rôles sont reconnus, conçus et ajustables, tandis qu'une symétrie peut favoriser la coopération. Le problème apparaît lorsque l'organisation devient rigide. La symétrie peut alors se transformer en escalade, chacun intensifiant son comportement pour ne pas céder de terrain. La complémentarité peut se figer dans une dépendance où une position dominante et une position subordonnée se confirment mutuellement. Cette approche apporte une lecture plus fine que la simple opposition entre individus forts et individus faibles. Chaque position se maintient par les réponses qu'elle suscite chez l'autre. Les auteurs invitent donc à examiner la séquence complète plutôt qu'à attribuer un rôle fixe ou une responsabilité totale à une seule personne. La possibilité de changer dépend souvent de la souplesse des règles relationnelles, non de la seule bonne volonté d'un protagoniste. En dernier lieu, la perspective systémique fonde une clinique centrée sur le changement des interactions. Une logique de la communication inscrit la souffrance psychologique dans des systèmes d'interaction plutôt que dans une intériorité séparée du contexte. Cette perspective ne nie pas les expériences individuelles, mais elle considère que les symptômes, les réponses de l'entourage et les règles familiales peuvent former un circuit de maintien. Une conduite problématique peut ainsi acquérir une fonction dans l'équilibre du système, même si elle fait souffrir les personnes concernées. Les auteurs emploient la notion d'homéostasie pour désigner cette tendance à préserver une organisation connue, y compris lorsqu'elle est coûteuse. Un changement direct peut alors provoquer des réactions qui restaurent l'ancien fonctionnement. La conséquence clinique est importante, il ne suffit pas toujours d'expliquer une difficulté ou de recommander un comportement opposé. Il faut comprendre comment les tentatives de solution participent parfois à la persistance du problème. Cette logique éclaire les interventions paradoxales associées aux approches brèves dans certains cas. Modifier le cadre de l'interaction peut être plus opérant que convaincre longuement les participants. Le livre reste prudent sur le plan de la méthode et ne fournit pas un protocole universel. Sa contribution durable est de faire de la relation observable, de ses répétitions et de ses règles implicites un objet central de compréhension et d'intervention. En conclusion, cet ouvrage s'adresse en priorité aux étudiants et professionnels de la psychologie, de la psychiatrie, du travail social, de la médiation, de l'éducation et de la thérapie familiale. Il intéressera aussi les lecteurs qui souhaitent disposer d'outils conceptuels solides pour analyser les conflits récurrents, les malentendus et les rapports de pouvoir dans les relations ordinaires. Son bénéfice principal est moins de fournir des conseils immédiatement applicables que de transformer le regard au lieu de demander seulement qui a raison. Qui a commencé ou quel trait individuel explique un problème, il conduit à examiner les séquences de réponses qui entretiennent une impasse. Cette modification de perspective est particulièrement utile pour comprendre pourquoi les meilleures intentions peuvent produire des effets opposés à ceux recherchés. Comparé aux nombreux livres de communication centrés sur la persuasion, l'écoute ou les techniques de formulation, une logique de la communication se distingue par son ambition théorique. Il relie la logique des paradoxes, la cybernétique, l'observation des interactions et la clinique des troubles relationnels. Son vocabulaire peut paraître daté par endroits et sa densité exige une lecture attentive, mais ses concepts demeurent féconds. La distinction entre contenu et relation, les séquences circulaires, la double contrainte et la rigidité des rapports symétriques ou complémentaires offrent un cadre cohérent. C'est donc moins un manuel de savoir parler qu'un livre pour comprendre comment les relations organisent le sens, le conflit et le changement. Si vous souhaitez soutenir Paul Watzlawick, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.